Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Merci de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission Bana Okapi. Ce programme dédié aux plus jeunes, réalisé en partenariat avec l'UNICEF, est diffusé sur les antennes de Radio Okapi du lundi au vendredi de 15h30 à 17h. Alors que le combat se poursuit à l'est de la République démocratique du Congo, entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23, de milliers de familles continuent de fuir leur foyer à la recherche de la sécurité. La majorité d'entre elles se regroupent dans des sites surpeuplés où les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes avec peu de possibilités de distraction ou d'éducation. De nombreux enfants déplacés sont ainsi fragilisés par les traumatismes liés à la guerre, au déracinement physique et psychologique. Au regard de cette situation, certaines organisations s'impliquent désormais dans l'encadrement des enfants dans des sites de déplacés de Boulongo, autour de Goma, à Beni. 300 enfants déplacés de guerre ayant fui le combat entre le belligérant dans les territoires de Lubero vont bénéficier d'un encadrement pendant cette période de vacances. Nous en parlons dans cette émission Bana Okapi, mise en onde par Dietone Nyangasa wa Nyangasa. Je suis Sarah Soumbel à la présentation. Bienvenue à tous. Okapi. Yole Africa redonne espoir aux enfants déplacés grâce à la fabrication de sandales. Plus de 100 enfants déplacés du camp de Boulengo autour de Goma et des dizaines d'enfants de la communauté locale participent depuis 3 semaines à la formation sur la fabrication de sandales. Cette initiative menée par l'organisation Yole Africa apporte non seulement un savoir-faire précieux aux enfants, mais aussi un sentiment d'espoir pour leur avenir. Déjà, le premier lot de sandales produites a été distribué aux déplacés de Boulengo. Comment les enfants et leurs parents reçoivent-ils cette initiative? La réponse dans ce dossier signé depuis Goma par Rosalie Zawadi.
Ici, les formateurs guident un enfant à découper les cuirs pour une sandale. Ses camarades attentifs suivent les mouvements, tous déterminés à saisir cette opportunité comme Héritier Masambo. Âgé de 13 ans, il explique en Swahili que lorsque la paix reviendra, il sera cordonnier chez lui à Kichanga. Moïse Baratouli-Roi, maître cordonnier chargé de la formation de ses enfants, espère que dans 6 mois, ils auront acquis suffisamment de compétences pour pouvoir fabriquer seuls des sandales.
Nous sommes d'abord en train de leur expliquer comment on conçoit les chaussures et les différents modèles de chaussures. Quand j'ai vu comment ils sont encouragés, comment ils ont aimé la cordonnerie, je sais qu'avec 6 mois, ça va suffire pour que chaque enfant me présente sa propre sandale qu'elle a faite.
Dans les premiers lots de chaussures distribuées aux enfants déplacés, quel a été le rôle de ces enfants apprenants dans ce travail-là?
Quand nous étions en train de travailler les chaussures qu'on leur avait distribuées, ils étaient chargés de la coupe et de traçage. Et avec eux, nous avons monté, ils étaient en train de voir, j'ai monté, mais ce sont les enfants qui ont fait le traçage et la coupe. C'est un processus. Et puis dans la cordonnerie, nous avons beaucoup de modèles. Mais pour que l'enfant devienne un bon cordonnier, comme vous en êtes de le voir, il faut 6 mois.
Allez, ok, tu n'as tracé par les... Ok, tracé. Tracé bien.
Stella Ramazani, chef de projet chez Olé Africa, explique comment est née cette initiative.
À un moment, quand on voulait lancer le projet, c'était qu'on voulait nous donner des chaussures qui viennent de l'étranger. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on paye des chaussures à l'étranger alors qu'on peut produire ces chaussures ici, mais en produisant ces chaussures, au fait, on donne aussi la connaissance à ces enfants-là pour pouvoir produire plus tard pour eux-mêmes. Donc vraiment, on est vraiment dans ce qu'on appelle au fait la prise en charge personnelle, quoi. Parce que si on doit attendre qu'on achète en Chine, qu'on nous envoie ça des États-Unis, oui, ça va venir et puis ça s'arrête là. Mais avec ce projet, non seulement on arrive à produire pour ces enfants dans l'école, mais ces enfants-là aussi peuvent continuer à faire ce travail-là et ça génère de l'argent tous les jours. C'est ça l'idée.
Au-delà de l'acquisition des compétences techniques, la formation offerte par Yole Africa permet aux enfants de développer leur confiance en soi, leur créativité et leur esprit d'entreprise. Petits et grands, tous se voient déjà comme des grands entrepreneurs dans les secteurs de la cordonnerie, ce qui réjouit leurs parents, comme le dit cette mère en swahili.
Kwenye watoto watashinda. Sawa tulisikia informasyo ya masomo kwa watoto. Nikesikia raha sana. Juu watoto orie washinde mukiwanja bako wanatupiana majiwe. Wanawezi kuya hapa. Wajue tu bidogo bidogo.
Na unadhania hii masomo itasaidia namna gani watoto wako tatu kwenye viko humu ndani?
Serogi nzi niko naona. Deja watoto sawa kwa mukiwanja sawa natoka hapa. Wanaanza tuonesha wenye habaya kuya, ginzi wanachapa viato, wanawaonyesha. Vinawezi wasaidia, siku tutatoka huku, Mungu akisaidi. Watakuwa wanainforme wengine tu hawakupata hii masomo. Mesi ya tuko na bahati ya mingi sana juu watoto. Vya kwanza waisha bivara kwa bobo peke njo walivichapaka. Ile ni avantage ya kwanza. Masomo kiendelea. Watawezi profiter bien mingi.
Yole Africa invite d'autres acteurs à initier cette activité dans les autres camps des déplacés autour de Goma.
Merci Rosalie Zawadi. L'encadrement des enfants déplacés est au centre de cette émission Bana Okapi que vous suivez. Vous avez suivi le reportage de Rosalie Zawadi sur la formation des enfants déplacés et autochtones à la fabrication des sandales. Alors, quelles sont les étapes suivies dans la fabrication des sandales? Moussa Bala Toliroi, formateur de jeunes cordonniers de la ville de Goma, vous l'explique au micro de Rosalie Zawadi. Suivez.
Oui, pour enseigner les enfants, on commence par la première chose, leur expliquer que signifie le patron. Pour nous, les patrons, c'est la forme. Nous prenons les cartons ou les papiers Bristol, nous les coupons en forme de chaussures. Et là, on commence déjà à leur expliquer comment on peut fabriquer les chaussures à base de ces patrons. On choisit le modèle, puis on monte les cartons d'abord. On fait une sorte de chaussure, on les présente. Par après, on va maintenant commencer par la coupe de cuir. Donc on trace d'abord ces patrons-là, on les trace sur le cuir et puis on fait la coupe. Après la coupe, on fait maintenant le montage parce que nous n'avons pas encore la machine. Parce que la troisième chose, c'est la couture. S'il y avait la machine, on devrait passer par la couture. Après la couture, maintenant, on fait le montage. Juste après le montage, on fait le ponçage avec la semelle. Une fois qu'on a fini le ponçage, on fait le serrage et la chaussure. Elle est présentée comme finie.
Et ouais. Quand vous n'avez pas de machine, comment faites-vous maintenant pour finaliser les chaussures avec les enfants déplacés?
Oui, avec les enfants déplacés, comme nous avons déjà commencé avec eux, nous sommes sûrs que la machine sera là. Mais au fur et à mesure, je suis en train de leur montrer comment d'abord on peut fabriquer une chaussure sans machine. Parce qu'il y en a toujours. On fait d'abord les méthodes traditionnelles. Parce qu'auparavant, il n'y avait pas de machine. On les fait à la main. Je leur montre comment on peut fabriquer une chaussure à la main. Et les chaussures sont portables. C'est bien présenté. Même sans machine. Ils connaissent déjà comment faire les chaussures sans machine.
Sur votre table ici, des modèles de chaussures, mais en carton, ce sont les enfants qui produisent avant d'arriver à utiliser les matériels pour les chaussures.
Oui, oui. Comme vous le constatez ici, chaque fois Quand on finit le cours, je leur montre qu'est-ce qu'ils vont faire à la maison. La pratique qu'on fait ici, une fois qu'on l'a fait avec le cuir, je leur demande d'aller pratiquer avec les cartons pour qu'ils se familiarisent, pour qu'ils apprennent davantage eux-mêmes. Et quand je suis là présent, ils me présentent ce qu'ils ont fait à la maison. Les cartons, vous voyez déjà que c'est une forme de chaussure. Déjà, ils ont l'idée qu'avec les cartons, une fois qu'ils coupent maintenant le cuir, ça devient maintenant les chaussures. C'est-à-dire, quand on veut fabriquer même une maison, on commence par ce qu'on appelle maquette. Les maquettes chez nous, c'est ça les cartons, les patrons. On coupe les cartons et puis on les applique chez les cuirs pour développer une paire de sandales. À la maison, je leur demande d'aller pratiquer ça en carton. Et quand je viens, ils m'amènent des chaussures en carton. Parce que nous savons que bientôt, les cartons vont devenir des chaussures réelles.
Avec quel matériel les chaussures finales sont-elles fabriquées ici?
Oui, madame, comme vous le demandez, dans la cordonnerie, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'histoires. Pour que les chaussures soient chaussures, nous passons par beaucoup d'étapes. Mais je peux m'expliquer en quelques mots. Chez nous, il y a deux catégories de matériel. Nous avons le matériel consommable et le matériel non consommable. Chez les matériels non consommables, nous avons des machines, nous avons des formes, des ciseaux, bâmes, il y a toute une liste là. Ce sont des choses qui interviennent pour qu'on fabrique les chaussures. Chez les matériels consommables, nous avons d'abord le cuir, nous avons la colle, nous avons le fil, il y a des catégories de cuir, il y a des semi-cuir, il y a aussi des semelles en pneus, des semelles en cuir, tout ça. Chez les chaussures, nous en avons. Mais ici avec les enfants réfugiés, nous utilisons d'abord les cuirs de vache. Les cuirs de vache avec les pneus usagés. On achète les pneus usagés, on les coupe. Ce sont les pneus-là qui vont nous aider à fabriquer le semelle de chaussures. Et les cuirs de vache nous aident à créer les câbles pour les sandales. Et là, nous n'avons pas vraiment beaucoup de difficultés à ce niveau-là, mais pour évoluer, il faudra que je leur montre comment aussi on peut fabriquer les semelles à base de cuir, à base d'élastomère. Il y en a beaucoup, mais à notre niveau pour le moment, on fabrique des chaussures avec les pneus et les cuirs de vache, mais aussi le cuir de semi-cuir acheté dans le quincaillerie. C'est ça.
Pourquoi la peau des vaches?
Oui, vous savez, dans l'historique des chaussures, comme nos anciens nous ont enseigné, la vache produit beaucoup de choses. Maintenant, nous nous limitons chez nous dans la cordonnerie. La peau des vaches, c'est la peau qu'on a jugée qui soit dure, une peau qui produit un bon cuir. Parce qu'une fois que la peau des vaches est tannée, chez les tanneurs, donc ils nous présentent maintenant le cuir. Comme ça, et les cuirs là, nous les coupons avec différents modèles que nous voulons. On produit des sandales, des ceintures, des sacs, des chapeaux, des vestes en cuir. On produit beaucoup d'histoires avec les cuirs de vache. Donc la peau de vache est trop utile chez les cordonniers.
Ça prend combien de temps à un enfant d'arriver à produire une chaussure ici?
Oui, comme vous le constatez, avec l'âge de nos enfants ici, comme vous le constatez aussi, il faut un petit temps parce que à notre niveau aujourd'hui, nous sommes d'abord en train de leur expliquer comment on conçoit les chaussures et les différents modèles de chaussures. Mais nous avons estimé que quand j'ai vu comment ils sont encouragés, comment ils ont aimé la cordonnerie, je sais qu'avec 6 mois, ça va suffire pour que chaque enfant me présente sa propre sandale qu'il a faite. Avec 6 mois, ça va aller.
Dans les premiers lots des chaussures distribuées aux enfants déplacés, quel a été le rôle de ces enfants apprenants dans ce travail-là?
Les enfants apprenants, quand nous étions en train de travailler les chaussures qu'on leur avait distribuées, ils étaient chargés de la coupe et de traçage. Et avec eux, nous avons monté, ils étaient en train de voir, mais la plupart des coupes et de traçage, ce sont eux-mêmes. J'ai monté, mais ce sont les enfants qui ont fait le traçage et la coupe. C'est un processus. Et puis dans la cordonnerie, nous avons beaucoup de modèles. Mais pour que l'enfant devienne un bon cordonnier, comme vous venez de le voir, il faut 6 mois. Il faut 6 mois et l'enfant sera capable de nous présenter son propre œuvre.
Merci beaucoup, monsieur Moïse Baratoliwa. Je rappelle que vous êtes maître cordonnier et ici, vous formez les enfants déplacés dans votre art.
Oui, merci, madame.
Moussa Balatoliroi, formateur de jeunes cordonniers de la ville de Goma et formateur des enfants déplacés et autochtones à la fabrication de sandales, s'entretenait là avec Rosalie Zawadi.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bienvenue dans cette deuxième partie de votre émission Bana Okapi. Nous parlons de l'encadrement des enfants déplacés au Nord Kivu. Alors que le combat se poursuit à l'est de la RDC, entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23, des milliers de familles continuent de fuir leur foyer à la recherche de la sécurité. La majorité d'entre elles se regroupent dans des sites surpeuplés où les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes avec peu de possibilités de distraction ou d'éducation. De nombreux enfants déplacés sont ainsi fragilisés par les traumatismes liés à la guerre, au déracinement physique et psychologique. Au regard de cette situation, certaines organisations s'impliquent désormais dans l'encadrement des enfants dans les sites des déplacés de Boulongo autour de Goma. À Beni, 300 enfants déplacés de guerre ayant fui le combat entre les belligérants dans les territoires de Lubero vont bientôt bénéficier d'un encadrement pendant cette période de vacances.
Okapi, Okapi, Okapi.
Yole Africa redonne espoir aux enfants déplacés grâce à la fabrication de sandales. Pour Madame Stella Ramazani, chef de projet à Yole Africa, l'objectif est de préparer ses enfants à être plus tard indépendants. Madame Stella Ramazani est notre invitée et elle est au micro de Rosalie Zawadi.
Madame Stella Ramazani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet au niveau de Yole Africa qui forme les enfants déplacés en fabrication des chaussures. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces projets d'encadrement des enfants déplacés dans la fabrication des chaussures?
Alors l'origine, ça a été beaucoup plus une demande au fait des mamans du camp. Puisque quand on est venu au fait aménager cet espace, c'est parce qu'on avait déjà un projet dans Yole qui s'appelle Yole Ecologia. L'écologie, c'est au fait un projet qui travaille avec les mamans sur comment en fait elles peuvent se prendre en charge à travers l'agriculture. C'est un projet qu'on a commencé dans l'une de nos parcelles qui se trouve vers Seselka. Alors quand on a eu cet espace ici et comme c'était un peu plus grand, on s'est dit qu'on va ramener le projet ici parce qu'on avait beaucoup plus d'espace pour aménager les terrains où les mamans peuvent cultiver. Alors en arrivant, les mamans du camp sont venues. Elles sont venues vraiment nombreuses d'elles-mêmes et tout. On a organisé comme une réception, quoi. Et quand elles sont venues, l'une d'entre elles, elles sont venues nous voir pour nous dire « Non, mais ça serait quand même bien si vous pouviez organiser quelque chose qui nous permettrait au fait d'avoir autre chose au lieu de rester tout le temps dans le camp. » C'est comme ça qu'on a essayé un peu d'avoir de réfléchir pour les mamans, pour se dire comment est-ce qu'on pouvait au fait faire quelque chose pour eux. Donc, et le même projet comme on venait avec ici, on s'est dit que c'était déjà un bon départ. Et c'est là qu'on a au fait initié le projet pour que on commence à enseigner aux mamans de ne pas être dépendantes des aides. Donc, Yole Ecologia donne un espace aux femmes où elles peuvent cultiver. On donne les semences et après, on organise pour eux une sorte de marché qu'on appelle Kasoko tous les 3 mois pour faire assez qu'on appelle les gens pour qu'ils viennent acheter maintenant les produits qu'elles ont eu à cultiver. Alors, comme les mamans viennent du camp et que les enfants n'ont rien à faire, généralement, elles ramènent aussi les enfants. Donc, comme le projet Ecologia est en train d'être mis en place avec les mamans, puisqu'on a des terrains qui ne sont pas encore réellement aménagés ici, donc il faut casser les pierres, il faut qu'on commence à aménager. On a d'abord commencé avec les mamans en se disant, bon, il faut d'abord qu'elles apprennent. On fait avec elles des formations, en fait, sur comment est-ce qu'elles doivent comprendre, en fait, c'est quoi se prendre en charge. C'est des formations qu'elles prennent déjà. Alors, avec les enfants, c'est comme ça qu'on s'est dit comment occuper les enfants. Mais les enfants aussi, c'est dire comment les enfants peuvent grandir et être aussi indépendants. C'est comme ça que l'idée est venue de dire qu'on peut faire, en fait, leur permettre de produire des chaussures pour enfants et arriver à les vendre. C'est comme ça que l'idée est venue.
Il y a plusieurs aspects d'encadrement des enfants. Pourquoi seulement avoir choisi la fabrication des chaussures?
Bon, je dirais peut-être que c'est ce qui nous est tombé en premier. On était avec quelqu'un qui faisait, en fait, on a un maître cordonnier qu'on connaissait déjà, en fait. Et on s'est dit, comme on a déjà quelqu'un qui a la connaissance, ça serait bien avec les enfants que l'on entame avec ça parce que c'est un savoir qu'ils peuvent facilement développer parce qu'ils sont encore petits. Et ça peut permettre à ce que ça soit vraiment des très bons cordonniers avec l'âge. Donc on commence, si vous allez voir, il y a vraiment des tout petits. Parce que ceux qui sont en âge de coudre viennent aussi avec leurs petits frères, tu ne vas pas les chasser aussi. Donc c'est vraiment comme ça, on vient d'abord avec eux. Et à la longue, c'est de se dire, on va bientôt commencer à organiser vraiment des espaces très bien. Pour maintenant commencer à, il faut qu'on aménage aussi un espace pour que les plus petits aient un endroit où jouer, le temps que les autres apprennent réellement.
Mmh. Oui. Et combien d'enfants, jusque là, les projets viennent de commencer il y a 3 semaines, combien d'enfants participent à la formation?
Au tout début, on avait 120 enfants qui venaient régulièrement. Dans les 2 semaines qui ont suivi, on a pu produire presque 200 paires de chaussures. Et on a fait une première distribution. Ce qui a fait que ça a apporté beaucoup d'engouement. Et les enfants et les parents qui sont là, qui ont vu les chaussures, commencent d'eux-mêmes à envoyer les enfants. Donc on a eu presque 200 demandes encore. Mais jusque-là, ceux qui sont réguliers, maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a 180.
Au niveau du projet, comment ça se passe? Les matériels que les enfants utilisent, comment cela est fait? Comment cela vous arrive? Où est-ce que vous trouvez les matériels?
Au niveau du matériel, c'est que le maître cordonnier, au fait, c'est lui qui nous oriente où il faut aller acheter les peaux, où il faut acheter de la colle, où est-ce qu'il faut acheter les fils. Bon, jusque-là, c'est vraiment manuel. Hein. Donc, c'est vraiment la cordonnerie, vraiment, je dirais, basique que l'on fait dans les quartiers. Et c'est lui qui oriente, au fait, où est-ce qu'il faut acheter ce matériel-là. Et Yoli, au fait, achète le matériel de première nécessité et les enfants apprennent avec lui. Et quand ils cousent, il leur montre comment il faut coudre, comment il faut mettre la colle, comment il faut découper. Et quand les chaussures sont produites comme ça régulièrement, on les met de côté. Et après, on va voir quelques séances, combien de paires on a. Et on va maintenant organiser une distribution, en fait, après.
Et donc, la distribution, c'est en faveur des enfants qui ont travaillé ou en faveur d'autres enfants dans les camps ici à Boulengo?
Les chaussures sont fabriquées, c'est pour les enfants qui sont dans les camps. Donc, notre but, c'est d'arriver à avoir plus ou moins, je dirais minimum, c'est 1000 paires de chaussures à donner aux enfants. Dans l'optique que plus tard, que l'on arrive au fait à aménager vraiment des ateliers avec du matériel adapté, où les enfants viendront maintenant coudre régulièrement et après essayer d'organiser comment est-ce qu'ils peuvent vendre pour que cet argent-là aide les familles. Donc, c'est un peu ça.
Donc, le projet, non seulement il aide à encadrer les enfants déplacés qui travaillent ici, qui sont formés, mais aussi vous aidez les enfants déplacés dans les camps. On sait que les camps est aménagé sur un espace où il y a trop de pierres, des cailloux.
Oui, exactement. Comme vous voyez là, au fait, c'est que déjà, on est dans une zone très volcanique où les pierres, non, il n'y a pas de route aménagée. Vous verrez qu'elle est tout petite d'ailleurs, hein, se promène dans les pierres. Et pour nous, c'était de donner, au fait, des chaussures adaptées. Parce qu'au fait, à un moment, quand on voulait lancer le projet, c'était qu'on voulait nous donner des chaussures qui viennent de l'étranger. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on paye des chaussures à l'étranger alors qu'on peut produire ces chaussures ici, mais en produisant ces chaussures, au fait, on donne aussi la connaissance à ces enfants-là pour pouvoir produire plus tard pour eux-mêmes. Donc vraiment, on est vraiment dans ce qu'on appelle, au fait, la prise en charge personnel, quoi. Parce que si on doit attendre qu'on achète en Chine, qu'on nous envoie ça des États-Unis, oui, ça va venir et puis ça s'arrête là. Mais avec ce projet, non seulement on arrive à produire pour ces enfants dans les camps, mais ces enfants-là aussi peuvent continuer à faire ce travail-là et ça génère de l'argent tous les jours. C'est ça l'idée.
Et il n'y a pas des enfants de la communauté locale ici qui peuvent aussi bénéficier, par exemple, de cette formation?
En fait, on ne met pas des barrières, au fait. Tous les enfants sont les bienvenus. Quand ils viennent, en fait, ils doivent s'inscrire sur la liste. On a une liste des élèves et le maître, en fait, quand il est là, il fait un appel chaque matin pour savoir qui est là, qui n'est pas là. Donc, il n'y a pas de barrière, que ce soit les enfants qui soient du camp ou qui soient des habitants, des autochtones ici. En tout cas, tous sont présents.
Alors, le projet est installé ici au niveau du camp de Boulengo. On sait qu'autour de Goma, il y a plusieurs camps de déplacés. Avez-vous pensé à élargir les activités sur d'autres camps de déplacés?
Pour nous, élargir, oui. Mais c'est selon nos moyens. comme vous voyez déjà ici, c'est qu'il faudrait qu'on arrive déjà à aménager des espaces qui soient sains et appropriés pour ce travail-là pour les jeunes. Mais on se dit que nous, on a peut-être montré l'exemple. Si on a plus de moyens, on peut le faire ailleurs. Mais c'est aussi un appel à d'autres personnes de bonne volonté à se dire que c'est des modèles qu'ils peuvent copier et mettre aussi ailleurs. Mmh. Ça, en tout cas, on est ouvert à ça. C'est pas qu'on se dit que c'est notre projet nécessairement, non. C'est juste de montrer la voie. Et s'il y a des personnes qui ont des moyens et qui peuvent le faire aussi ailleurs, c'est tant mieux.
Madame Stella Ramazani, je rappelle que vous êtes chef de projet au niveau de Yole Africa. Merci.
Ouais. Merci beaucoup.
Okapi, Okapi, Okapi.
En visite dans le camp de déplacés de Boulengo le mois dernier, la députée provinciale Nafissa Ramazani s'est véritablement imprégnée du projet de fabrication des chaussures par les enfants. Elle a promis de tout mettre en œuvre pour que tout le monde s'approprie ce projet. Stanislas Diomi s'est entretenu avec elle à ce sujet.
Alors bonjour honorable Nafissa Ramazani.
Bonjour.
Vous êtes députée provinciale de Walikale au Nord Kivu. Aujourd'hui, Banaokapi traite un sujet sur des enfants déplacés de guerre, mais formés dans la fabrication des chaussures à base de peau de bœuf par Yole Africa. Quelle a été votre impression?
En fait, personnellement, j'ai été très émue. Voilà pourquoi je suis allée visiter ces enfants. Une occasion pour moi d'interpeller les filles et fils de la province du Nord Kivu, d'interpeller les dirigeants congolais à pouvoir appuyer de tels projets, créer de tels projets qui permettent au moins d'occuper ces enfants. Ces enfants ont déjà des problèmes du niveau psychologique. Ces enfants vivent dans des conditions inhumaines. Alors, il y a un moyen d'encadrer ces enfants-là et Yole Africa a réussi, mais pas encore parfaitement, parce que moi, personnellement, je me dis ça peut être leur métier dans les jours à venir, parce que ces enfants sont occupés une fois la semaine. Ces enfants viennent avec des tout petits, parce que l'âge varie entre 8 et 13, 14 ans, selon mon propre constat, mais ces enfants-là sont accompagnés de leurs petits frères, petites sœurs. Donc, moi, je me dis que le gouvernement congolais devait faire un effort pour appuyer, pour encadrer ces enfants-là, en créant des espaces de jeux d'abord, et puis en les encadrant comme le fait Yole Africa. Pourquoi pas appuyer Yole Africa qui a commencé avec ses projets et élargir ce projet dans d'autres camps de déplacés, dans d'autres milieux de la vie en fait, parce que c'est un problème qui est global. Disons, dans la province du Nord Kivu, c'est vrai qu'on trouve des enfants déplacés dans des camps, mais il y a également des enfants déplacés dans des familles d'accueil. Alors, il faut trouver un mécanisme pour créer de telles initiatives, appuyer de tels projets pour essayer d'encadrer ces enfants-là.
Ça, c'est la part du gouvernement, comme vous venez de le dire. Et vous, en tant qu'élu du Nord Kivu, allez-vous appuyer ces projets et comment?
Bon, moi, appuyer ce projet-là, c'est essayer d'avoir ou d'interpeller des personnes à venir soutenir ce projet-là. Parce que personnellement, je n'ai pas de moyens pour appuyer ce projet. Parce que ces projets, pour 6 mois, il faut un montant de plus ou moins 15 000 $. Et moi, je ne les ai pas. Alors, je fais appel aux personnes de bonne foi, aux personnes de bonne volonté qui peuvent appuyer ce genre de projet. Personnellement, je fais dans le social. Mais je ne peux pas faire dans le social avec un tel montant parce que je n'en ai pas. Parce que personnellement, déjà, pour des actions que je mène dans des camps déplacés, j'ai fait appel aux personnes de bonne volonté. Et donc, pour ce projet-là, encore comme député, donc j'appelle le gouvernement militaire au niveau la province du Nord Kivu, de voir comment appuyer cette structure et créer des projets similaires pour essayer d'encadrer ces enfants déplacés.
Et en tant qu'élu, mais est-ce qu'il n'y a pas de stratégie que vous mettez en place déjà là, comme le projet est déjà là? Il est certes vrai que vous n'avez pas ce montant-là pour appuyer le projet, mais quelles sont les stratégies de sensibilisation que vous mettez en place justement pour attirer les partenaires à venir en aide ou soutenir ce projet?
En fait, j'ai fait appel aux amis, je sensibilise les amis. Comme récemment dans la ville de Goma, on a créé quelque chose qu'on a appelé Amani Charity, où toute personne, d'abord, les personnes visées étaient ceux de la ville de Goma et ceux de la ville de Goma qui vivent ailleurs, qui ont contribué pour une action sociale. Et à ces mêmes amis, j'ai parlé du projet et je continue de parler du projet aux autres personnes qui peuvent avoir de moyens pour financer. Et je sais qu'avec les amis avec qui je parlais, on se dit, on va voir dans le long terme ce qu'on pourra faire. Est-ce qu'on pourra faire appel à d'autres personnes pour soutenir le projet parce que nous demandons la contribution à partir de 1$ et voir si nous allons réunir le projet, si les gens vont faire dans ça et voir comment nous allons appuyer ces enfants ou cette structure.
Et vous avez émis le vœu que ce projet puisse s'étendre dans d'autres camps des déplacés pour que l'on continue à former les déplacés. Comment cela peut se faire?
En fait, c'est d'abord approcher ULE Africa pour connaître, pour savoir comment ils ont fait, quelle est l'approche qu'ils ont utilisée pour pouvoir en arriver là et avoir de l'expérience, pourquoi pas utiliser les mêmes formateurs pour aller encadrer ou former d'autres formateurs, en fait. Ça serait la meilleure approche parce qu'il n'y a qu'un seul formateur pour la fabrication de chaussures, mais il y a d'autres encadreurs. Alors, on peut les approcher, savoir comment ils ont fait, quelle approche ils ont utilisée et aller implanter ces mêmes projets dans d'autres camps déplacés.
Aujourd'hui, la formation sur la fabrication des chaussures, est-ce qu'il existe aussi d'autres formations que l'on peut donner au camp des déplacés pour l'auto-prise en charge?
Exact, il y a beaucoup de choses à faire. En fait, si vous allez faire un tour dans des camps déplacés, vous allez trouver que ce sont des personnes qui manquent de tout. Donc, ça serait préférable de les encadrer dans plusieurs autres domaines de la vie, comme par exemple faire des champs communautaires avec les femmes et qui peuvent après partager le bénéfice des denrées alimentaires, par exemple. Bon, ce sont des personnes démunies de tout. Moi, je pouvais dire, on peut créer ce qu'on fait récemment, qu'on appelle avec, ce sont des épargnes, mais comment vous allez faire des épargnes avec des gens qui n'ont déjà rien, qui manquent déjà à manger? Donc, moi, je me dis que c'est possible de les encadrer, par exemple, dans la coupe couture. C'est pas aussi évident parce que il faut de machines à coudre, il faut des tissus, parce que il faut tout apporter, au fait. Dans les champs communautaires, pourquoi pas? Mais quand on fait tout ça, moi je me dis toujours qu'on va auprès des démunis. La première des choses, non seulement de leur apporter, c'est plus ce qui va les aider dans les jours à venir, mais n'allez pas vers eux mains vides, parce que vous allez parler avec des personnes qui ont le ventre vide. Ces personnes ne vont pas vous écouter. Donc c'est toujours préférable d'aller auprès de ces personnes et de penser toujours à pouvoir les assister en vivre et en non vivre. C'est le plus important, et les encadrer, au fait, parce que la vie continue malgré tout, malgré les difficultés que ces personnes traversent dans des camps déplacés. Donc, c'est la vie qui continue et ces personnes doivent continuer de vivre, en fait. Alors, il faut donner de l'espoir à ces personnes, leur apprendre certains métiers et voir comment elles vont essayer de tenir jusqu'à ce qu'elles puissent rentrer dans leur milieu d'origine.
La vie continue, il faut donner de l'espoir à ces personnes qui doivent vivre aussi comme tout le monde, de façon décente. En tant que leader d'opinion, qu'est-ce que vous pouvez dire et aux partenaires, mais aussi aux amis qui vous écoutent maintenant, aux amis ou collègues députés, bien entendu, qui vous écoutent à ce moment, qui peuvent emboîter le pas du Nord Kivu, afin de travailler en synergie pour justement donner à ces déplacés l'espoir de vivre comme tout citoyen? Quel est votre message?
Je dirais à mes compatriotes de nous aimer vivants, de pouvoir assister ces personnes-là, aux organisations humanitaires, de pouvoir faire vraiment des actions qui sont concrètes. Parce qu'il y a des gens qui débloquent, on entend de montants qu'on débloque, mais les résultats n'est pas palpable. On veut voir réellement la vie de ces personnes changer. Je crois que la ville de Goma, la province du Nord Kivu, est une de provinces qui a beaucoup plus des organisations humanitaires, mais l'impact de ces organisations humanitaires, on ne le voit pas, on ne les sent pas. Alors, on aimerait que ces organisations humanitaires réellement puissent faire leur travail. Mais l'interpellation ici, c'est d'abord au niveau du gouvernement, au niveau national, qui agrée ces organisations-là. Donc, il faut vraiment mettre un accent là-dessus, que ces organisations puissent avoir des actions qui sont concrètes. Et donc, j'en appelle encore à la bonne foi de tous les compatriotes, de pouvoir se réunir, de créer des petites organisations pour venir en aide à nos compatriotes qui sont dans des camps et qui vivent dans des conditions inhumaines.
Honorable Nasifa Ramazani, je rappelle que vous êtes député provincial et élu de Walikale au Nord Kivu. Nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions.
Ouais, c'est moi qui vous remercie.
Okapi, encore plus d'infos.
Rendons-nous à présent à Beni. Au moins 300 enfants de placer des guerres qui ont fui les affrontements entre le FARDC et les rebelles du M23 dans les territoires de Lubero et sont hébergés avec leurs familles dans la ville de Beni vont bénéficier d'un encadrement pendant cette période de vacances. L'annonce a été faite le week-end par la chef du Bureau des affaires humanitaires et solidarité nationale dans la région de Beni, Butembo et Lubero. Une initiative saluée par le Parlement d'enfants de la région. C'est un reportage de André Kitengi.
L'encadrement de ces enfants consistera à leur apprendre des notions de pâtisserie et d'autres activités. Un espace qui servira de cadre pour cet encadrement est déjà en plein aménagement derrière la mairie de la ville de Beni, estimait l'Ecopole, responsable du Bureau des affaires humanitaires et solidarité nationale dans la région de Beni, Butembo et Lubero et initiatrice du projet explique.
Ces derniers temps, nous cessons d'enregistrer plusieurs cas, surtout les enfants délaissés abandonnés sortant dans les sites de Lubero. La majorité d'entre eux, nous les avons redirigés au niveau des affaires sociales pour qu'ils soient réinsérés dans certains orphelinats qu'on appelle souvent des maisons transitoires. Et les autres qui vivent dans les centres collectifs, avec eux, nous sommes en train d'organiser une colonie de vacances accompagnée du Parlement d'enfants et quelques organisations locales afin de les encadrer. Parce qu'après la période de grandes vacances, nous allons aussi les réinsérer dans les écoles telles que nous le faisons chaque année. Nous allons d'abord les diviser selon les tranches d'âge. De 2 ans à 5 ans, et ils seront là juste pour leur apprendre comment écrire les chiffres, l'alphabet. Et à partir des 10 ans jusqu'à 15 ans, certains d'entre eux, nous allons les enseigner comment faire des pâtes, le pain, les arts culinaires, l'informatique et l'anglais des bases. Et après ça, selon leurs dons et talents et capacités qu'ils vont manifester, entre eux, s'il y aura ceux qui voudront rentrer à l'école, on va les accompagner. Et s'il y aura ceux dont leurs parents voudraient que leurs enfants fassent des travaux avec leurs mains, nous allons les réinsérer dans des centres pour les apprentissages des métiers.
Le Parlement d'enfants de Beni parle d'une bonne initiative en faveur de ces enfants déplacés, victimes directes de l'insécurité. Joël Kavuya est encadreur principal de cette structure d'enfants.
Pour nous, ça a été un sentiment de soulagement. Comme on l'a toujours dit, le voyage de 1000 km commence par le premier pas. Et pour nous, on se disait, pour tout enfant qui a quitté sa zone, qui ne connaît personne, qui doit se faire des meilleurs amis ou des nouveaux amis, ces centres ou cette colonie des vacances est un endroit et un milieu opportun pour ces enfants. Deuxièmement, nous n'avons pas d'argent ni d'or à donner à ces enfants qui ont quitté leur milieu. Mais lorsque l'État congolais, au travers ses bureaux de la division des affaires humanitaires basés à Beni, prend le relais, pour nous, ça nous a donné une lueur d'espoir. Pour dire si on peut commencer avec 300, c'est-à-dire on s'attendra à ce qui, aujourd'hui on a 300. Demain, un enfant ira dire à l'autre enfant et l'autre enfant appellera l'autre enfant. Et ça permettra à ce qu'on redonne sourire à un seul enfant. Et si un seul enfant dans le Grand Nord peut sourire et peut-être oublier tant soit peu les tragédies de notre contrée, ça vaut de la peine.
Actuellement, au moins 300 enfants déplacés vivent avec leur famille dans des sites identifiés à Beni par le Bureau local des affaires humanitaires et solidarité nationale. Leurs parents ont reçu une assistance pour leur permettre d'initier quelques petites activités génératrices de revenus en vue de leur prise en charge, estimait l'Ecopole.
Dans les 6 sites de déplacés, nous avons 256 enfants venus de Kanyabayonga durant les 6 sites. Et dans le centre collectif ou le centre transitoire, là on a pu réinsérer, il y a au moins une cinquantaine d'enfants. Ils sont 300. Leurs parents sont identifiés. Certains d'entre eux, nous leur avons donné juste le moyen de bord pour qu'ils puissent faire des activités génératrices de revenus dans le petit marché de Mayango, c'est avec des ventes de légumes, tomates. Et les autres, on est en train de voir comment aussi les équiper dans la transformation des savons. Parce que ça, si on va commencer ça juste ici derrière le bureau, on va ériger un petit centre là-bas pour que le peu qu'ils gagneront dans ces centres puissent les accompagner à nourrir les fils et les enfants, en attendant qu'on les encadre aussi dans les colonies de vacances.
Le Parlement d'enfants dit attendre beaucoup de cet espace d'encadrement, notamment la reconnaissance de la dignité de ces enfants déplacés de guerre. Joël Kavuya.
Quant à ce qui est de cette colonie en faveur des enfants qui reviennent des zones plus insécurisées, la première des choses, c'est de redonner ces enfants leur place. Parce qu'on n'est pas Congolais parce qu'on est des Rutshuru. On n'est pas Congolais parce qu'on est seulement de Mangina ou on est de Mutuanga. On est Congolais partout sur le sol congolais. C'est-à-dire, c'est reconnaître que ces enfants ont le droit partout et en tout ce qui doit être dans leur juridiction. Deuxièmement, c'est de ne pas victimiser ou rappeler ces enfants les atrocités, mais à l'occurrence, leur donner une lumière d'espoir que tout ce que nous vivons, nous devons garder l'espoir. Si on peut tout perdre, mais ne perdons pas quand même l'espoir. Que demain, c'est un Congo meilleur, demain, ça sera un Congo prospère. Mais ce Congo prospère commence par les choix qu'on donne à ses enfants encadrés aujourd'hui et maintenant. Que cette colonie de vacances soit cet caliment de paix et d'espoir et d'espérance pour ses enfants qui diront « Je n'ai pas peut-être vu ma mère, je n'ai pas peut-être été avec papa dans les champs, mais aujourd'hui, j'ai retrouvé de nouvelles amies et des meilleurs familiers en dehors de ma juridiction d'origine. »
Le coordonnateur de la protection civile dans la ville de Béni salue de son côté cette initiative. Jean-Paul Capitoula pense cependant qu'il faudra tenir compte de la proximité de cet espace d'encadrement avec les enfants pour prévenir certains risques, notamment les accidents de circulation. Jean-Paul Capitoula.
Je pense que c'est question d'analyser le risque. C'est question et aussi de comprendre combien sont localisés où. Parce que un centre, les enfants qui viennent de la route Mangina, la grande majorité doit se retrouver dans des quartiers périphériques de la ville. Et donc, du coup, s'ils sont dans les Kasangatuha, Boutili et Ngongolio, je peux prendre Mambango, Mabolio, il faut que ces centres soient rapprochés de là où ces enfants se retrouvent. C'est un risque pour moi, d'une manière où l'enfant qui ne maîtrise pas Béni, lui demander d'aller à une longue distance pour aller trouver un espace des enfants. C'est lui amener à beaucoup de risques en cours de route, d'être écrasé par des motos et de kidnapping et autres. Donc du coup, ou même de se perdre seulement parce qu'il ne connaît pas la ville. Donc c'est pourquoi je vous dis, il faudra évaluer la vulnérabilité de ces enfants pour ne pas amener une réponse qui peut créer des problèmes, pour nous prouver que tout est fait pour une protection intégrale de ces enfants.
Afin d'atteindre tous les enfants déplacés de guerre vivant dans la ville de Béni, estimez les Copolé inviter les parents à se faire identifier auprès des comités des déplacés dans leur milieu respectif.
Personnellement et en tant que chef de bureau, nous lui demanderons de s'identifier d'abord auprès des communautés parce que dans chaque quartier, chaque cellule, il y a des représentants des comités des déplacés qui puissent s'identifier et aller auprès des autorités. À travers eux, ils vont les recommander auprès de nous.
Le Parlement d'enfants du Grand Nord Kivu interpelle les autorités de l'éducation sur les dangers que courent la plupart de ces enfants déplacés qui ne pourront pas aller à l'école après cet encadrement. Il estime que des dispositions doivent être prises afin que ces enfants rentrent à l'école, cadre de protection par excellence des enfants. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Merci André Kitenge pour ce reportage.
Mon ton son, notre votre l'heure.
Le français parlons-en, c'est tous les samedis à 13h05 sur Radio Okapi.
Parlons français, le français parlons-en.
Le français parlons-en, un programme de Radio Okapi coproduit avec l'ambassade de France en RDC et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le français parlons-en, une autre façon d'apprendre et de parler correctement le français.
Parlons français. Le français parlons-en.
Au moins 300 enfants de déplacés de guerre vivent à Béni depuis l'occupation par les rebelles du M23 de plusieurs agglomérations du sud du territoire de Lubero il y a bientôt un mois. Ces enfants et leurs parents ont fui leur localité de Kabayonga, Kaina et Kirumba. Ces enfants continuent-ils à jouir de leur droit de vivre en toute dignité dans des milieux qui ne sont pas la leur? Pour en parler, nous recevons Lionel Kinyoma, le chargé des opérations de l'ONG Action Globale Intégrée pour la réhabilitation Agir, une organisation locale qui milite pour les droits et la dignité des enfants à Béni. Ils s'entretiennent avec André Kitenge.
Lionel Kinyoma, bonjour.
Bonjour, monsieur André Titengui.
De nombreux enfants déplacés de guerre en provenance du territoire de Rutshuru et de Kanyabayonga ainsi que d'autres agglomérations du sud du territoire de Lubero vivent à Béni après avoir fui ces localités à la suite de l'avancée des rebelles du M23. Pouvez-vous nous dire dans quelles conditions vivent ces enfants aujourd'hui?
Merci pour la question. En fait, la situation des enfants déplacés, pour le moment, en tout cas, c'est une situation très déplorable, d'autant plus qu'ils vivent dans des conditions qui sont vraiment inhumaines. Si vous voyez les enfants qui sont concentrés dans des camps, par exemple, de déplacés, je peux donner par exemple la situation du camp déplacé de Oicha, où nous avons été récemment avec le coordinateur humanitaire, Monsieur Bruno Lemarquis, qui a lui-même constaté la situation qui est vraiment déplorable. En tout cas, les enfants ne vivent pas dans des conditions qui puissent leur permettre de croître comme il se doit.
Certains accusent la plupart des ONG de défense des droits des enfants et de la jeunesse, et dont la vôtre, de ne pas s'occuper de ces enfants déplacés. Que répondez-vous à ces allégations?
Par rapport à ces allégations, je dirais qu'ils ont raison et ils n'ont pas également raison. D'autant plus que nous, en tant que des acteurs humanitaires, des organisations surtout nationales, des droits congolais, nous faisons notre part. Nous faisons notre part, d'autant que nous sommes des bénévoles d'abord. On doit commencer par cela. Nous sommes des bénévoles et nous faisons notre part. Nous encadrons les enfants dans des espaces sûrs. Nous leur apprenons leurs droits et devoirs, bien évidemment. Nous sensibilisons tous les enfants et ceux qui sont dans les camps de déplacés, pas seulement ceux qui sont dans les camps, même les enfants ici dans la ville. Vous allez constater qu'il y a des phénomènes des enfants qui sont utilisés, des enfants qui travaillent. Donc nous faisons notre part. Mais ils ont raison aussi, d'autant plus que nous ne faisons pas assez. Nous ne faisons pas assez aussi parce que nous sommes limités par les moyens. Nous n'avons pas assez de moyens, mais nous faisons à la limite de nos moyens. Nous pensons que c'est là aussi, c'est vraiment aussi un cri d'alarme auprès des donateurs, afin qu'ils puissent quand même appuyer les organisations qui sont en train de s'adonner pour changer la situation des enfants.
Ces enfants continuent-ils à jouir de leur droit de vivre en toute dignité dans des milieux qui ne sont pas les leurs?
Je dirais pas totalement. Ils ne jouissent pas de leur dignité, d'autant plus qu'ils sont confrontés à plusieurs difficultés. Par exemple, les enfants ne vont plus à l'école. Bien évidemment, pour le moment, ils sont dans les vacances, mais ils ont commencé à fuir depuis bien avant. Nous allons prendre la situation des écoles à Mangina, par exemple, où les écoles ont fermé. La plupart des enfants n'ont pas terminé leur cursus. Et il n'y a pas que cela, mais nous allons voir les enfants qui sont dans les camps. Ils sont dans le camp, par exemple, ils sont concentrés dans une petite bicoque, les parents, les enfants. Alors il y a certains droits qui sont bafoués, par exemple le droit dont ils ne sont pas vraiment dignes de leurs droits. Mais nous faisons de notre part pour que ces enfants puissent quand même recouvrir leurs droits.
A-t-on une idée du nombre de ces enfants déplacés qui vivent à Beni et des endroits où ils vivent?
Pour le moment, nous n'avons pas les chiffres exacts, mais par rapport aux évaluations qui sont en train d'être données, nous attendons les rapports pour avoir, parce qu'il y a plusieurs acteurs qui ont mené des évaluations rapides multisectorielles. Et alors, nous attendons les rapports. Quand il sera balancé, nous aurons les chiffres.
Le bureau, je pense, des affaires humanitaires et solidarité nationale parle d'au moins 300 enfants des déplacés de guerre qui vivent à Beni.
Je ne pense pas que ce soit un chiffre mis à jour présentement, parce que chaque jour il y a des mouvements. Aujourd'hui, avant-hier, nous sommes alertés parce que nous avons mis en place des systèmes d'alerte, un système d'alerte précoce communautaire. Et alors nous sommes tout le temps alertés par les arrivées des familles déplacées. Donc chaque jour, on ne peut pas s'atteler au chiffre de 300, dont ils peuvent aller au-delà déjà aujourd'hui.
Lionel Kinyoma, concrètement, que fait votre ONG Agir pour aider ses enfants à vivre dignement comme tous les autres enfants?
En ce qui est de notre part, en tant qu'Agir, ce que nous faisons, nous encadrons les enfants dans des espaces sûrs. Nous leur prenons en charge, surtout psycho-émotionnellement. C'est un travail que nous avons commencé depuis les années 2019 avec IRC. Et nous avons continué ce travail qui est notre travail de routine. Et aujourd'hui, nous avons des espaces sûrs où nous sommes même en train d'encadrer des enfants déplacés. Et par exemple, à Oicha, nous sommes en train de vouloir organiser, par exemple, des activités récréatives pour les enfants dans les camps déplacés. Et bien évidemment, ces activités servent aussi à ce que ces enfants puissent se sentir dignes, et non pas être, donc, qu'ils ne voient pas la différence entre eux en tant que déplacés et les autres enfants. Et nous leur sensibilisons aussi sur leurs droits et aussi les devoirs. Donc, c'est ça concrètement que nous faisons.
Et ces espaces sont bien surveillés, sont bien équipés. Comment vous le faites?
Pour le moment, nous avons, ici à Beni, nous avons un espace au bureau même de Agir. C'est un espace qui est équipé, bien évidemment. Mais nous avons d'autres extensions, des espaces, par exemple, dans un autre bureau de Oicha. Là, nous manquons juste le moyen, bien évidemment, mais quand même, on encadre les enfants, mais on n'a pas tout ce qu'il faut pour les enfants. Et par exemple, ce que nous allons faire dans le camp des déplacés pour à Oicha, pour encadrer ces enfants. Nous allons prendre tous les dispositifs du bureau de Beni pour amener ça dans le camp à Oicha. Alors, donc, vous allez comprendre que c'est aussi un problème de moyens qui se pose, mais la volonté de servir est toujours là. En tout cas, par le partenaire qui sont dans la protection de l'enfance, en tout cas, nous sommes en train de plaider à ce qu'ils puissent, en fait, soutenir les actions de Agir et aussi pour qu'ils puissent aider. Mais aussi, nous avons quand même un projet à Oicha. Je ne peux pas passer sans pour autant en parler. C'est un projet qui prend en charge, au fait, les enfants déplacés, victimes des conflits armés. Mais malheureusement, le moyen est vraiment limité. C'est un projet que nous sommes en train d'implémenter à Oicha avec les partenaires Resilience Fund. Donc, c'est l'initiative globale contre les crimes organisés à travers le fonds de la résilience qui nous a donné un moyen, mais quand même, c'est limité. Alors, on a besoin d'assez de moyens pour que ces enfants puissent, en tout cas, recouvrir tous leurs droits et qu'ils puissent vraiment être dignes de leurs droits.
Donc, aujourd'hui, à ce jour, ces enfants sont encadrés par vos propres moyens de bord.
Oui, comme je le disais, avec nos propres moyens de bord, dans les camps de déplacés, mais aussi, il y a aussi un moyen d'un partenaire qui est le Fonds de la Résilience, mais c'est un chiffre qui est vraiment limité à 40 enfants. Donc vous voyez que ce n'est pas suffisant avec tous les grands nombres. D'ailleurs, je me rappelle lorsque nous avons fait les civilités auprès des administrateurs, des autorités territoriales, même ils ont dit que c'est vraiment un très petit nombre. Et nous avons fait des plaidoyers auprès du partenaire, mais il a dit qu'il est quand même, voyons voir avec les 40 ce que ça va donner. Mais les besoins, il est énorme.
Pour terminer, quel message aux parents pour l'encadrement de ces enfants en cette période de vacances scolaires?
Merci. En cette période de vacances scolaires, c'est vraiment une période où les enfants, dont la plupart sont délaissés, nous allons demander aux parents d'envoyer leurs enfants dans les espaces, dans des endroits où ils sont encadrés. Par exemple, nous avons eu la journée le 12 juin, la journée mondiale contre le travail de l'enfant.
Oui, tout à fait.
Alors nous avons des activités, nous avons eu une activité avec d'autres partenaires ici sur place, entre autres World Women Transforming Vision, Youth in Action. Nous avons eu des activités, un atelier où nous avons convié des parents pour les sensibiliser sur les travaux forcés. Parce que nous avons constaté ici, surtout dans la ville de Beni, beaucoup d'enfants sont soumis à des travaux qui dépassent même leur âge. Et donc vous allez voir des enfants qui travaillent. Nous avons même eu des interviews avec certains enfants qui vous disent qu'ils se scolarisent eux-mêmes. Ils scolarisent leurs petits frères et petites sœurs, donc vous trouvez que c'est vraiment un cas qui n'est pas bon. Et aussi, ces enfants ne sont pas protégés. Alors, un message, que le parent puisse veiller à cela et non pas regarder juste à ce que les enfants vont aller peut-être vendre les choses au marché, amener de l'argent, mais veiller aussi à leur protection parce qu'il y a aussi des cas graves contre ces enfants où ces enfants ont été agressés la nuit, tapés. On les a même ravis tout ce qu'ils ont pris. Donc, ces enfants doivent être vraiment protéger et les parents doivent veiller à cela, surtout pendant ces périodes de vacances.
Lionel Kinyoma, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Lionel Kinyoma, chargé des opérations de l'ONG Action Globale Intégrée pour la réhabilitation. Il était notre invité et il répondait aux questions de André Kitengi. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission Bana Okapi. L'encadrement des enfants déplacés était au centre de cette émission. Nous étions à Goma, où plus de 100 enfants déplacés du camp de Boulengo et des dizaines d'enfants de la communauté locale participent depuis 3 semaines à la formation sur la fabrication des sandales. Cette initiative est de l'organisation Yole Africa. À Beni, 300 enfants de déplacés de guerre ayant fui les combats entre les belligérants dans les territoires de Lubero vont bientôt bénéficier d'un encadrement pendant cette période de vacances scolaires. Rosalie Zawadi, André Kitenge et Stanislas Diomi ont coproduit cette émission. Une réalisation de Gisèle Cage sous la supervision de Jean-Marc Matwaki, une mise en onde de Diedoné Nyangasa wa Nyangasa avec une présentation de Sarah Sumbela. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site www.radiokapi.net et sur la page Facebook Bana Okapi. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi et à l'émission Bana Okapi. On se retrouve très prochainement.